Souvent, quand on imagine un coffre-fort, on pense à une grosse boîte en acier au sous-sol d'une banque. C'est froid, très industriel.
Ouais, totalement. Conçu pour être impénétrable, en fait.
Exactement. Mais imaginons à l'instant un coffre-fort naturel, forgé par la roche et l'eau. Eh bien, dans notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, on explore les sources sur Poupan. C'est un petit village belge de la vallée de la Smoie qui est exactement ça, quoi. Un véritable coffre-fort géologique.
Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment un simple méandre de rivière a généré un miracle agricole inattendu, puis caché un énorme secret d'État pour finir par se réinventer grâce à l'écotourisme. Je suis vraiment fasciné par cette histoire.
L'histoire de cette région est littéralement dictée par sa géologie. Les sources parlent de l'orogenèse varisque.
Ah oui, l'orogenèse varisque, ça sonne très technique, mais en fait, de gigantesques mouvements tectoniques ont contraint la rivière à creuser des méandres très, très profonds.
Attendez, on parle bien de la formation des montagnes il y a des centaines de millions d'années, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. Ces forces titanesques ont obligé la Semoie à s'enfoncer dans la roche. Du coup, le village s'est niché sur la rive convexe, bien à l'abri.
Et la rive concave, elle, forme des falaises abruptes. Ok, décortiquons un peu tout ça. Ce relief crée une sorte de serre géologique naturelle. Mais les sources mentionnent la culture du Gödertheimer, un tabac subtropical, entre 1856 et 1950.
Ouais, c'est le grand paradoxe de la région.
Bah oui, cultiver un truc pareil au nord de l'Europe, ça demande de la chaleur, pas juste un abri contre le vent.
En fait, c'est là qu'intervient la thermodynamique, et surtout la roche schisteuse. Elle agit vraiment comme un radiateur géant.
Un radiateur géant ? Carrément.
Exactement. La roche emmagasine la chaleur le jour pour la relâcher doucement la nuit. Et en plus, cette topographie très encaissée retient des brouillards matinaux denses.
Ah, donc ça forme un bouclier thermique contre le gel.
Voilà, c'est ce qui empêchait les plantes gelées. Et pour le séchage, ils utilisaient de grands séchoirs vernaculaires à claire-voie.
C'est bluffant. C'est des constructions traditionnelles qui respiraient au rythme du vent de la vallée, sans aucune électricité et sans faire moisir le tabac.
Mais cet isolement extrême n'a pas seulement protégé les plants de tabac. Dans les années 1980, il a fourni la couverture parfaite pour un véritable thriller politique.
Ah oui, le fameux groupe de Poupen. En 1982, la Belgique frôle la faillite avec 500 milliards d'euros de dettes.
Une situation financière critique.
Très critique. Et là, quatre dirigeants, dont le Premier ministre, se réunissent clandestinement dans un chalet à Poupen. Leur but, c'était de dévaluer le franc belge et de bloquer les salaires.
Ce qu'ils appelaient le saut d'index, ouais.
C'est ça. Mais en regardant ça de manière impartiale, on doit se poser la question, comment un quatuor, qui ne représente pas le Parlement, a pu prendre une décision nationale d'une telle ampleur, en vase clos?
Ce qui est fascinant ici, c'est que ça illustre le corporatisme belge de l'époque. Ces hommes représentaient les plus hauts sommets politiques, syndicaux et bancaires.
Les forces vives du pays, en somme.
Exactement. Et le secret était une nécessité absolue. S'ils avaient débattu de ça publiquement, les marchés financiers auraient paniqué.
Ce qui aurait provoqué une fuite des capitaux massive.
Ouais, et précipité la faillite de l'État. Donc ce coffre-fort géologique de Poupran était vital pour cacher l'opération.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois la crise passée et l'agriculture abandonnée, ben, la nature a repris ses droits.
Et avec de nouveaux acteurs aux commandes. Le retour du castor, par exemple.
Les tout premiers logisticiens de la Semoie.
C'est une belle façon de le dire. Le castor, c'est une espèce ingénieure. En construisant ses barrages, il modifie les courants et crée des zones humides.
Ce qui a permis une restauration écologique spectaculaire. Les sources mentionnent même le retour du hibou grand-duc grâce au réseau Natura 2000.
Et l'économie locale s'est totalement adaptée à ça. Aujourd'hui, tout repose sur l'écotourisme et le rythme de la rivière.
Le kayak, par exemple, c'est strictement dicté par le débit de l'eau.
Ouais, si ça dépasse 10 mètres cubes par seconde, on ferme tout, car c'est trop dangereux. Et sous 4 mètres cubes, c'est beaucoup trop lent. Hein.
Et sur Terre, c'est pareil, on s'adapte. Les sentiers de randonnée sont digitalisés avec des fichiers GPS. Fini le piétinement sauvage de la flore.
Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est assez ironique. En canalisant les marcheurs avec des GPS, on protège indirectement les nids d'oiseaux cachés dans les fourrés.
C'est clair. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ?
Bah, ça montre l'évolution incroyable d'un territoire. On est passé du tabac à la finance, puis à une logistique touristique dictée par la nature.
Ce qui amène une pensée finale assez provocatrice pour clôturer cette plongée en profondeur. Si un petit village aussi isolé a pu servir de théâtre clandestin pour sauver discrètement l'économie de toute une nation...
On peut se demander ce qui se passe ailleurs, ouais.
Exactement. Quelles autres décisions mondiales majeures se négocient peut-être aujourd'hui même dans des paradis naturels reculés, loin des regards, bien à l'abri, dans de nouveaux coffres-forts de pierre, de quoi laisser songeur.